Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. L'heure du journal présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Invective, raillerie, attaque personnelle. Le premier débat tant attendu hier soir entre Donald Trump et Joe Biden aura offert un spectacle pour le moins chaotique.
Dans votre journal également, 5 ans après l'éclatement du Dieselgate, l'ex-PDG d'Audi est devenu ce matin le tout premier patron à répondre devant un tribunal allemand du trucage des moteurs diesel.
Nous irons également à la cour d'assises spéciale de Paris où après plus de 3 semaines consacrées au récit des attentats de janvier 2015, le procès aborde désormais les faits reprochés aux 14 accusés. Nous détaillerons par ailleurs les chiffres révélés ce matin par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. 591 bacheliers, toujours sans affectation à l'issue de la procédure Parcoursup.
Enfin, les ravages de la crise sanitaire et en l'occurrence, l'explosion de la précarité en France.
Oui, ou quand le Secours populaire tire ce matin la sonnette d'alarme. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Henriette Steinberg, coprésidente de l'association. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Si elle n'est pas elle-même afro-PN, elle en devient ici une porte-parole. C'est un essai sur une utopie dont vient nous parler la romancière et écrivaine Léonora Miano, auteure de Afropéa qui paraît chez Grasset.
C'était leur toute première joute et c'est peu dire qu'elle fut agitée hier soir si Donald Trump et Joe Biden n'auront pas manqué de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire en évitant de se serrer la main à leur arrivée sur scène. En revanche, les deux candidats à la Maison-Blanche n'auront pas eu besoin davantage de se forcer pour se cracher toutes sortes d'insultes à la figure clown, menteur, caniche, raciste, marionnette. Autant d'invectives qui auront non seulement empoisonné le débat au détriment des idées et des programmes, mais plus encore sans doute des attaques continuelles révélatrices du niveau de polarisation aujourd'hui de la société américaine. Et ce, alors que le temps presse pour conquérir les électeurs, voire convaincre les derniers indécis à 5 semaines seulement de l'échéance. Dans ces conditions, difficile donc de déterminer si le premier des 3 débats prévus en amont du scrutin aura fait bouger les lignes. Seule certitude, le show télé d'hier soir aura été assez largement pathétique. Retour sur cette soirée électrique avec le reportage à Cleveland dans une brasserie pro-Donald Trump signée de notre correspondant Grégory Phillips.
Le parti républicain de l'Ohio a privatisé cette brasserie dans la banlieue nord de Cleveland pour une watch party. Burger, bière, écran géant. D'habitude, on vient plutôt ici pour voir du baseball. Mais là, c'est le premier débat présidentiel qui attire du monde. Dans la salle, tous ou presque portent une casquette ou un t-shirt « Make America Great Again » ou « Trump 2020 ». En revanche, personne n'a de masque sur le visage et personne ne semble vraiment se soucier de l'épidémie de coronavirus. Sur les écrans de télévision, il suffit de quelques minutes pour que le débat entre Donald Trump et Joe Biden s'envenime. Ici, le président sortant empêche le candidat démocrate de parler. Vous allez la fermer ou non, s'agace Biden. Le modérateur, le journaliste Chris Wallace, paraît débordé. Gentlemen, messieurs, calmez-vous. Nous allons passer à autre chose. Un peu plus tard, Trump accuse Biden d'être la marionnette de la gauche radicale. Biden réplique, vous êtes le caniche de Vladimir Poutine, un clown, un menteur, le pire président de l'histoire américaine. Dans la salle, huée pour le candidat démocrate, et à la fin du débat, Walter, le supporter trumpiste, fait ce constat.
On s'attendait à ça. Trump a beaucoup interrompu Biden, mais j'aurais fait pareil. Certains diront peut-être que c'était trop agressif, mais il doit bien défendre son bilan. Et tout ce qu'il a fait ces 3 dernières années et demie.
Claudia a évidemment désigné Donald Trump comme vainqueur de ce premier débat.
J'imagine que les débats, c'est comme ça, il faut se battre. Bon, peut-être qu'ils auraient dû laisser l'autre parler un peu plus, au lieu d'interrompre. Mais bon, c'est un débat.
And who's the winner?
Oh, to me, Trump.
Qui a gagné? Pour moi, Trump, bien sûr. Biden n'a rien fait pour nous depuis 47 ans, croyez-moi.
Pendant ces 90 minutes d'invective, les deux hommes n'ont presque pas abordé le fond et leur programme. Le prochain débat, ce sera celui des colistiers le 7 octobre entre Mike Pence et Kamala Harris, en espérant que ce duel ait un peu plus de tenue.
Navarro. Reportage à Cleveland, signé Gregory Phillips. Toujours aux États-Unis, le géant du divertissement, le vrai celui-ci, Disney, n'aura pas réussi, en dépit de la magie qu'il vante à chacun de ses spectacles, à repousser les effets prolongés de l'épidémie de Covid-19. Le groupe a annoncé la suppression de 28 000 postes outre-Atlantique, des licenciements qui toucheront principalement les employés des parcs d'attractions californiens, mais aussi les secteurs des croisières, de l'événementiel et des produits dérivés. Et puis j'ajoute que, sauf accord de dernière minute au Congrès américain, les compagnies aériennes fragilisées, là encore par la pandémie de coronavirus, se préparent à licencier à partir de demain des dizaines de milliers de salariés.
Midi 35 sur France Culture. 5 longues années se sont passées après les premières révélations aux États-Unis sur le scandale planétaire des moteurs diesel truqués, le fameux Dieselgate.
Et ce n'est qu'aujourd'hui que comparaît donc à la barre le tout premier patron automobile allemand jugé pour fraude à 57 ans, Rupert Stadler, ex-PDG du constructeur Audi, filiale de Volkswagen, risque jusqu'à 10 ans de prison. 3 autres co-prévenus doivent également comparaître devant la justice. Un procès censé durer au moins jusqu'en décembre 2022. Les précisions à Berlin de notre correspondant Ludovic Piétenu.
C'est un procès complexe et très technique, d'où sa durée. À titre d'exemple, cette seule première audience du jour se résumera à la lecture intégrale des 90 pages des chefs d'accusation, dont celui très grave de fraude, mais aussi d'émission de faux certificats ou de publicité mensongère. À la barre, Rupert Stadler, 57 ans, ancien patron d'Audi, filiale de Volkswagen. Il est le premier patron automobile allemand à devoir se défendre des accusations de manipulation, selon le parquet. Il savait tout de ce scandale au plus tard vers la fin du mois de septembre 2015, et pour autant il n'a pas empêché la vente vers l'Europe et les États-Unis de plus de 430 000 véhicules des marques Volkswagen, Audi et Porsche dotés du logiciel tricheur. Ces 3 coprévenus, un ancien directeur d'Audi et de Porsche et 2 ingénieurs, sont eux accusés d'avoir développé ces moteurs entre 2009 et 2015. Les 2 patrons en col blanc rejettent ces accusations et ont l'intention d'utiliser ces presque 2 ans de procès pour convaincre le tribunal.
La Belgique connaîtra-t-elle enfin aujourd'hui le nom de son nouveau Premier ministre ? Le Royaume s'est réveillé ce matin avec l'espoir de voir aboutir la formation d'un gouvernement majoritaire, ce dont le pays est privé depuis 21 mois. Un projet d'accord de gouvernement a en effet été conclu à l'aube entre les 7 partis engagés dans cette négociation marathon, et tout porte à croire que c'est le libéral flamand Alexander De Croo, ministre des Finances de l'actuelle équipe intérimaire, qui devrait endosser la charge de former un nouveau gouvernement. Indépendance de la justice, équilibre des pouvoirs, lutte contre la corruption, pluralisme des médias et liberté de la presse, parce qu'il n'y a pas que dans les régimes autoritaires établis que tous ces thèmes se retrouvent par définition bafoués. La Commission européenne doit dévoiler aujourd'hui son premier rapport sur le respect de l'état de droit dans les 27 pays de l'UE. 3 pays en particulier se retrouvent sur la sellette, la Hongrie, la Pologne et la Bulgarie.
Comment réconcilier l'Arménie et l'Azerbaïdjan, marqués par une telle animosité mutuelle qui perdure depuis plus de 30 ans?
Mais hier, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé les 2 parties à un arrêt immédiat des combats dans l'enclave disputée du Haut-Karabakh, qui ont déjà fait 100 de morts depuis dimanche. Reste que ce matin, le Premier ministre arménien a lui jugé prématuré l'idée de pourparler avec l'Azerbaïdjan, tant que des affrontements sanglants sont en cours, des affrontements qui pourraient d'ailleurs s'envenimer un peu plus encore après que la Turquie a promis qu'elle ferait le nécessaire si l'Azerbaïdjan lui réclamait une aide militaire. Alors depuis Riga en Lettonie, où il achève aujourd'hui même son déplacement dans les Pays-Baltes, Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin sur ce conflit. Le chef de l'État a annoncé qu'il aurait des entretiens avec son homologue russe Vladimir Poutine ce soir et avec le président américain Donald Trump demain, avant de rendre compte de la situation devant le Conseil européen. Quoi qu'il en soit, et tout en restant très prudent sur les responsabilités des dernières attaques, Emmanuel Macron a en revanche vivement critiqué les déclarations de la Turquie et va même jusqu'à accuser Ankara d'encourager son allié azerbaïdjanais à reprendre le contrôle du Karabakh par la force.
On a vu hier des déclarations dans tous les sens sur lesquelles je reste très prudent parce que je ne parle que sur la base d'informations certifiées. Je ne veux pas réagir sur ces sujets-là à des informations de presse. Donc à ce stade, je reste extrêmement prudent, mais nous savons que c'est une situation très embrasée. Par contre, j'ai noté les déclarations politiques de la Turquie qui, je pense, sont inconsidérées et dangereuses. Et je le dis en particulier à l'égard de l'Arménie, la France au sein du groupe de Minsk, dans son rôle qui suppose l'impartialité qui justifie ma prudence, demeure extrêmement préoccupée des messages guerriers que la Turquie a eus ces dernières heures, au fond décomplexant l'Azerbaïdjan dans ce qui serait une reconquête du Nord-Karabakh. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Et donc je le dis très clairement là aussi à l'Arménie et aux Arméniens, la France sera dans son rôle et nous serons vigilants là aussi au respect des familles, du peuple, de la souveraineté. Nous n'accepterons aucun message d'escalade.
Après 4 jours de garde à vue, le ressortissant pakistanais accusé d'avoir grièvement blessé au hachoir 2 personnes vendredi dernier à Paris a été mis en examen hier pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. L'homme qui a reconnu avoir voulu viser la rédaction de Charlie Hebdo, dont les locaux étaient anciennement situés à l'endroit de l'attaque, a par ailleurs avoué avoir menti sur son âge et son identité. Celui qui se présente désormais sous le nom de Zahir Hassan Mahmoud, 25 ans, était, selon le procureur, totalement inconnu de l'ensemble des services de renseignement.
Justice toujours au tribunal de Paris et après plus de 3 semaines consacrées au récit des attaques de janvier 2015, dont celle à la rédaction justement de l'hebdomadaire satirique, le procès à la cour d'assises spéciale, Thomas, aborde depuis lundi et pour la première fois les faits reprochés aux 14 accusés.
Oui, quels étaient leurs liens avec les auteurs des attentats que révèlent les investigations sur le rôle de chacun? Alors avant l'interrogatoire des accusés, ce sera lundi prochain, pour l'heure ce sont les enquêteurs qui se succèdent à la barre. En l'occurrence, ce matin, la cour se penchait sur la provenance des armes utilisées par les terroristes. Et si celle des frères Kouachi n'a pas pu être établie, les armes d'Amédi Koulibaly, le tueur de l'hypercacher, ont en revanche fait l'objet d'une enquête minutieuse. Compte rendu d'audience ce matin, signé Florence Turm.
Friterie, trafic d'armes et stupéfiants, affaire complexe, résume le président. L'enquêtrice de la division antiterroriste vient de terminer sa déposition et une chose est sûre, 8 des armes retrouvées à l'hypercacher et dans l'appartement loué par Amédi Koulibaly à Gentilly proviennent d'une société slovaque. AFG Security revend des armes d'ex-Yougoslavie transformées. Transformées ne veut pas dire démilitarisées, précise la policière. Il apparaît assez simple de le remettre en état avec un outillage adapté. La vente est légale en Slovaquie, mais pas conforme à la législation européenne. En revanche, elle passe aisément par Internet et l'on arrive ainsi à la société de Claude Herman, figure de la droite identitaire dans la région lilloise, informateur de la gendarmerie. Claude Herman, par ailleurs gérant de friterie et dont le principal client d'armes est un certain Samir Ladjali, délinquant notoire de Roubaix, qui les revend ensuite lui-même. Sur le boulevard de Metz, à Lille, lieu de contact privilégié des trafiquants, on croise encore d'autres délinquants toxicomanes qui orientent l'enquête vers 3 des accusés, Mohamed Fares, Saïd Maklouf et Amar Hamdani. Les 2 derniers se sont rendus à 6 reprises dans la région entre octobre et décembre 2014 et ils peinent à donner des explications sur ces déplacements, si ce n'est pour aller voir des prostituées. Paris-Roubaix, ça fait quand même cher la passe, glisse la policière. Des proximités établies mais pas de lien avéré entre Samir Ladjali et les accusés présents, admet-elle toutefois. Il a d'ailleurs bénéficié d'un non-lieu dans ce dossier des attentats de janvier 2015, mais a été condamné à Lille pour trafic d'armes en bande organisée aux côtés de Claude Herman. Tous les 2 sont attendus demain devant la cour.
Ils sont encore cette année près de 600 sur le carreau, 591 bacheliers très exactement, toujours sans affectation à l'issue de la procédure Parcoursup. C'est ce qu'a révélé ce matin la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, laquelle a immédiatement assuré qu'ils seraient tous pris en charge. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors 591 bacheliers, c'est moins que les 1175 de l'an dernier. Reste que le ministère avait tout de même décidé cette fois-ci de prolonger de 15 jours la phase complémentaire de la plateforme, permettant donc aux étudiants de formuler de nouveaux vœux dans les formations disposant de places disponibles. Or, cela n'aura visiblement pas suffi, Hakim.
Oui, car s'il reste encore 591 bacheliers sans affectation, c'est aussi grâce à la création de milliers de places en BTS et dans les filières sanitaires et sociales. Mais avec l'afflux massif d'étudiants cette année, lié au taux de réussite exceptionnel au bac, plus 30 000, faute de places suffisantes, de nombreux bacheliers ont dû s'inscrire par défaut dans des filières qui ne souhaitaient pas vraiment à l'université, ce qui risque d'accroître l'orientation subie et surtout les redoublements. Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, demande donc plus de transparence au ministère de l'Enseignement supérieur.
Les personnes à qui on a trouvé une inscription, puisqu'il y avait quand même 93 000 personnes sans inscription à l'issue de la phase 1 en juillet. Quelle formation on leur a trouvé? Parce que quand on a fait 10 vœux et que aucun de nos vœux, sur aucun de nos vœux, on a une proposition, effectivement, en général, c'est derrière une orientation par défaut. Aujourd'hui, soit on va avoir des jeunes qui vont s'inscrire dans des filières qui ne les intéressent pas et qui abandonneront au bout d'un moment puisque ça ne les intéresse pas, soit qui s'inscriront effectivement dans le privé, soit qui feront une pause d'un an, qui arrêteront les études et qui essayeront de revenir l'année prochaine.
Avec 50% d'échecs en première année de licence, la France a l'un des plus mauvais taux de réussite des pays de l'OCDE.
Merci Hakim Kasmi. Le conseil d'administration d'Engie, prévu de longue date pour cet après-midi, se réunira finalement pour une étape absolument cruciale dans le feuilleton qui agite désormais la place de Paris depuis un mois. En l'occurrence, le géant de l'énergie devra étudier l'offre de rachat de ses parts dans Suez, offre qui expire ce soir à minuit, que le spécialiste de l'eau et des déchets Veolia a par ailleurs révisé à la hausse ce matin, 3,4 milliards d'euros au lieu des 2,9 proposés initialement. Et puis dans sa nouvelle proposition, Veolia s'engage désormais en cas d'acquisition des parts d'Engie de ne déposer d'offres publiques sur le reste du capital de Suez qu'à la condition qu'elle soit amicale. Plus exactement, si à l'issue d'une période de 6 mois, Veolia n'obtenait pas d'avis favorable de son concurrent, alors le groupe soumettra d'autres projets à l'ensemble de ses actionnaires.
Comment combattre la prostitution des mineurs?
Un groupe de réflexion interministériel doit se réunir aujourd'hui sur ce thème avec des associations, des psychologues, des policiers. Alors en réalité, les données chiffrées sur le sujet manquent cruellement. La dernière étude date de 2013 et fait état de 5000 à 8000 mineurs concernés en France. De son côté, le gouvernement se prépare donc à un long travail de recherche, 6 mois de discussion et de travail de terrain pour tenter de mieux comprendre donc le phénomène. Seule certitude, Arnaud Rozac, la prostitution des mineurs serait aujourd'hui de plus en plus visible dans le pays.
C'est le constat du milieu associatif pour qui les réseaux sociaux jouent un rôle fondamental. Facebook, Snapchat, Instagram, c'est le nouveau terrain de jeu des proxénètes. C'est là qu'ils repèrent les jeunes les plus fragiles. Stéphanie Karadec, directrice du mouvement d'Uni.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de cyberproxénétisme parce que c'est ces proxénètes, ils identifient que cette jeune, elle est en fugue, qu'elle s'est fait maltraiter par son père, par son beau-père. On rappelle les chiffres, un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles. Et du coup, ils vont profiter de cette vulnérabilité pour la mettre en prostitution.
Ces réseaux de proxénétisme sont souvent petits, informels. Exemple, un adolescent qui contraint sa copine à des passes avec des amis à lui ou bien des membres de sa famille. Violence physique, séquestration, chantage affectif, la domination exercée par les proxénètes peut prendre plusieurs formes. Arthur Melon est le secrétaire général de l'association Agir contre la prostitution des enfants.
L'essentiel des victimes ne reconnaissent pas qu'elles sont dans la prostitution, elles n'endossent pas ce costume qui est extrêmement difficile à porter, donc elles vont dire qu'elles sont dans l'escorting ou dans le michetonnage. Et elles ne considèrent pas non plus qu'elles sont victimes, c'est là aussi quelque chose de difficile à assumer pour elles, parce qu'il y a une emprise psychologique très forte, parce qu'il y a du psychotrauma et il y a aussi beaucoup de déni de leur part pour supporter ce qu'elles endurent.
Pour lutter de manière efficace, la directrice du mouvement d'Uni, Stéphanie Karadec, incite l'État à ne pas se concentrer uniquement sur un travail de prévention.
Certes, il y a des mineurs victimes, certes, il y a des proxénètes, mais s'ils sont là, c'est parce qu'il y a des hommes qui décident d'acheter des actes sexuels à des enfants. C'est un acte pédocriminel et aujourd'hui, ils ont le sentiment d'agir en toute impunité. Donc il ne faudra pas oublier ce volet répressif à l'égard des hommes qui achètent ces actes sexuels.
Le groupe de travail du gouvernement doit présenter des solutions avant mars prochain.
Midi 48 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Et l'invité de la rédaction aujourd'hui à l'occasion de la publication du baromètre annuel du Secours Populaire. Henriette Steinberg, secrétaire générale de l'association. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Et à vos côtés pour vous interroger, Catherine Pétillon. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors le baromètre que publie aujourd'hui le Secours Populaire est évidemment singulier puisqu'il inclut cette période totalement inédite en France qu'aura été le confinement. Mais il est surtout dramatique en ce sens qu'il nous révèle les ravages de la crise sanitaire avec une véritable flambée de la pauvreté sans précédent, dites-vous, depuis la Seconde Guerre mondiale.
Alors, nous disons qu'effectivement, il y a une flambée de la pauvreté sans commune mesure avec ce qu'on a rencontré jusque-là. Il y a aujourd'hui dans notre pays des centaines de milliers de personnes qui ont basculé alors que jusque-là, elles subvenaient à leurs besoins, de façon difficile, de façon modeste, mais elles subvenaient à leurs besoins. Et avec le Covid, le confinement, les mesures qui ont été prises, ces personnes ont non seulement perdu leurs emplois, mais elles ont perdu aussi toute perspective de retrouver un emploi, quel que soit cet emploi, parce que dans leur environnement, il n'y a pas d'emploi. Et chacun des auditeurs peut le vérifier. Il suffit qu'il regarde dans la rue, là où il habite, les rideaux de fer qui ne se lèvent pas, qui ne se lèvent plus. Ça veut dire que, concrètement, il y a des familles par centaines de milliers qui ne savent plus à quel sein se vouer et qui viennent s'inscrire au Secours populaire. Elles viennent s'inscrire sur les comités, elles viennent s'inscrire dans les fédérations et elles viennent par centaines de milliers.
Ça veut dire que vous avez vu arriver aussi des nouveaux publics, des personnes qui ne venaient pas jusqu'à présent ?
Nous avons vu arriver des publics que nous n'avions jamais rencontrés. Nous avions rencontré, bien sûr, et nous avons rencontré, nous continuons de rencontrer, des personnes qui sont en difficulté parce que les rémunérations qu'ils ont, les emplois qu'ils ont, leurs conditions de vie font que, avec les moyens dont ils disposent, ils ne sont pas en mesure de subvenir convenablement aux besoins de leur famille. Ces familles, nous les connaissons. Elles sont inscrites au Secours populaire, nous faisons du soutien scolaire, nous les aidons sur le plan alimentaire, nous les aidons sur le plan des vacances. C'est la solidarité essentielle et irremplaçable du Secours populaire. En revanche, se sont ajoutées, par centaines de milliers, des personnes qui jusque-là n'avaient jamais rien demandé à personne et qui, de ce fait, sont non seulement démoralisées, mais ont honte d'être rentrées dans un circuit dont elles pensaient qu'ils ne pouvaient en aucun cas les concerner. Et de ce fait, ils mettent un peu de temps avant de venir et de demander. Mais quand ils arrivent, alors il n'y a plus d'argent du tout. C'est-à-dire que la carte bleue ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent, ça veut dire qu'ils ont utilisé la totalité de ce qui leur restait et qu'ils ont faim. Et quelquefois, et parmi ceux que nous soutenons, et que nous allons y compris voir à leur domicile, parce qu'ils n'osent pas sortir, ce sont leurs voisins qui, ne les voyant plus sortir, préviennent le Secours populaire. On est dans un climat que nous n'avons jamais rencontré au Secours populaire et que nous aimerions le plus bref possible.
Autre particularité peut-être, l'arrivée de beaucoup de jeunes.
Oui, il y a beaucoup de jeunes parce que tous les emplois que les jeunes occupent ou ont occupé jusque-là, c'est-à-dire les CDD, les emplois saisonniers, les charges particulières au moment des fêtes, la participation à toutes les activités culturelles dans toutes les tâches qui vont avec la promotion d'un spectacle culturel ou sportif. Tout ce qui existe comme type d'emploi, intérim, CDD, enfin tout ce que les uns et les autres nous connaissons, ça a pris fin. Et ça a pris fin de façon soudaine. Et ils n'ont pas retrouvé.
Vous soulignez la difficulté à se nourrir, tout simplement.
Oui.
Aussi la difficulté, enfin, ou l'aggravation des inégalités que vous avez pu constater depuis le confinement.
Nous avons pu constater effectivement que il y a plus de personnes qui sont en difficulté, beaucoup plus de personnes qui sont en difficulté et qui ne rentrent pas dans les dispositifs tels qu'on les connaît avec les mesures sociales qui existaient précédemment. Et du coup, pour le Secours populaire, il y a une vraie recherche, un vrai travail pour essayer de voir comment on sort de la difficulté.
Ça veut dire que vous aussi, vous devez changer vos modes d'intervention ?
On doit ajouter de nouveaux modes d'intervention. Et on doit ajouter des modes d'intervention qui permettent de bien écouter les gens et d'adapter le soutien aux problèmes qu'ils rencontrent. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on veut développer de façon importante la promotion des outils numériques, aussi bien pour les personnes qui n'arrivent pas à s'en servir aujourd'hui et qui du coup sont coupées des services publics où de plus en plus le système fonctionne simplement de façon numérisée, mais aussi nous voulons aussi que les jeunes, que les enfants, que les ados et que les familles apprennent à se servir de ces moyens pour créer les emplois de demain et pour se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, juste en regardant vers le passé, ils ne peuvent que sombrer dans le désespoir. C'est pas du tout la démarche du Secours populaire. Et c'est ce qui fait que nous appelons fortement à obtenir des moyens pour faire en sorte que tous les enfants des familles dans lesquelles la vie est difficile puissent aussi avoir les mêmes moyens que les enfants des familles où les choses se passent mieux, de sorte qu'il reste des liens sociaux et qui ont du sens entre les uns et les autres.
Dernière question, Ariel Stenberg. Vous serez reçue avec les autres associations de solidarité vendredi à Matignon. Qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement ?
Nous allons redemander des moyens financiers conséquents pour pouvoir mettre en place des dispositifs de soutien aux familles, aux jeunes. Nous allons demander des moyens conséquents pour que soient ouverts des contrats qui vont permettre à des jeunes étudiants qui ont terminé l'université mais qui ne trouvent pas immédiatement de travail, de pouvoir avoir un emploi de formation, un emploi dans lequel ils vont apprendre à des enfants, à des jeunes, à se servir des ordinateurs. Et effectivement, ça permettra de promouvoir le futur. C'est ce que nous allons demander. Nous allons demander
merci.
Aussi que
Merci, on
soit
terminera par ces mots. Merci beaucoup, Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours Populaire, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Catherine Pétillon. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Pluvieux sur le nord, ensoleillé au sud. Quant aux températures, elles afficheront entre 16 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.